France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, des membres de la commission d'enquête du Sénat se rendront sur place aujourd'hui. Les opérations de dépollution du site classé Seveso ont commencé hier. Dans la foulée de l'annonce faite par Emmanuel Macron depuis l'île de la Réunion, l'Assemblée nationale a voté hier une exonération supplémentaire de cotisations patronales à hauteur de 35 millions d'euros pour favoriser l'emploi. À la Réunion, 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le président de la République a été accueilli hier par une grève générale sur place avec un rassemblement de gilets jaunes. Grève générale aussi en Bolivie pour contester les résultats toujours provisoires de l'élection présidentielle. Alors qu'Evo Morales, au pouvoir depuis 13 ans, répétait hier qu'il avait remporté l'élection au premier tour et dénonçait ce qu'il qualifiait de tentative de putsch. Cette nuit, de nouveaux résultats partiels laissent supposer à nouveau un second tour possible entre Carlos Mesa et l'actuel président. La commission prévoyait plutôt une victoire du président. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce possible retournement de situation. Dans le Chili voisin, la contestation sociale se poursuit. Les émeutes qui ont éclaté depuis vendredi ont fait 18 morts. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues, notamment dans la capitale Santiago. Les 39 corps retrouvés dans un camion près de Londres hier sont en cours d'identification. Pour l'instant, personne ne confirme que les victimes seraient des réfugiés clandestins, mais la police britannique travaille en liaison avec la brigade criminelle spécialisée dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Le camion arrivé de Belgique, le conducteur, un jeune homme originaire d'Irlande du Nord, a été arrêté. C'est une exposition très attendue qui s'ouvre aujourd'hui au Louvre, l'exposition Léonard de Vinci. 500 ans après la mort du génie de la Renaissance italienne, 260 000 billets ont déjà été achetés en prévente. Face à l'affluence, la réservation est indispensable.
C'est l'un des cinéastes les plus récompensés au Festival de Cannes, à l'occasion de la sortie de Sorry We Miss You, où il ne lâche rien de sa colère et de son combat humaniste. Ken Loach, l'insurgé, à voix nue sur France Culture. Retour sur une vie de combat et de création.
J'ai passé un examen pour aller à Oxford. C'était inouï dans notre famille. C'était une ville très classe ouvrière.
Rencontre exceptionnelle avec Ken Loach, à voix nue, de lundi à vendredi à 20h et en intégralité sur franceculture.fr. Que se passe-t-il lorsqu'un philosophe s'approche d'une toile de Léonard de Vinci? Les chemins de la philosophie tentent de saisir l'insaisissable Léonard. Adèle Manrette.
Ben nous, on va essayer de voir les œuvres de Léonard de Vinci à travers le regard des philosophes. Ce sera donc de 10h à 11h.
La Joconde, la Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste ou la Vierge au Rocher, cheminons aux côtés de Léonard de Vinci, les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture, c'est un réveil en douceur avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les jeudis, c'est l'actualité musicale. Et aujourd'hui, je reçois Vald. Alors, si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous êtes vraiment éloigné de la planète des 20 ans. Vald est un artiste très populaire chez les jeunes. Je suis juste un babtou qui rappe, se définit la star qui bat tous les records de vues sur le net et de vente de disques qui remplit les plus grandes salles de France. Babtou, c'est dans le dictionnaire maintenant, je crois, mais je peux rappeler que ça veut dire, que ça vient de toubab, c'est en verlan toubab, terme lui-même dérivé du mot en wolof qui est employé dans les pays d'Afrique de l'Ouest pour désigner les blancs européens. Vald, de Valentin son vrai prénom, 27 ans aujourd'hui, fait partie des 30 personnalités les plus influentes d'Europe selon le magazine Forbes. Mais d'où vient-il? Que raconte-t-il? Comment compose-t-il ses musiques et pourquoi tant de jeunes se reconnaissent-ils dans ses textes et chansons qui oscillent entre drôlerie, dinguerie et déprime contemporaine? Son troisième album s'intitule « Ce monde est cruel », ça résume bien l'esprit des 16 titres de cette galette. 16 titres comme 16 petites chroniques sociales, parfois intimistes, parfois slogans politiques, avec fines rimes et gros mots, désabusés et joyeux en même temps. On ne sait pas toujours à quel degré les prendre, mais il parle des temps présents
présent les raps de Vald. Vald sur France Culture, Vald et son époque, Vald et son monde, Vald depuis sa Seine-Saint-Denis, tentative de décryptage du phénomène en compagnie de l'auteur-compositeur-rappeur lui-même.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
À force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. Même si la foi, à force de tir, civile par terre. À force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. Même si la foi, à force de tir, civile par terre. Fuck it, si j'ai déprimé. VALD, VIP. Nos merdes se sont fait primer. Nos mères devaient se priver. Elles peuvent être fières de leurs gosses. On remplit tout le zénith, pas juste la fosse. Montagne de kids qui m'adore. Sur montagne de kids je m'endors. Surmonter la mif qui m'appelle. Pour surmonter la distance, faut plus qu'une attelle. On me demande si je vis la belle. On me demande quand est-ce que je rappelle. Je vais monter la belle, démonter ses amelles. De Valet Samuel comme les nouveaux Marvel. Je refuse de vieillir, je vais marquer l'histoire ou voler les allèles de Pharrell. Je crois qu'il faut que t'arrêtes de gratter l'amitié, ouais, je trouve autre chose à faire. Articule un peu, tu auras pour tirer la soupe sous sa mère. Testicule 1-2, choupa sous salaire. Trouve la bonne manière. Sous le regard de Dieu, sous la bonne bannière. Ouragan de malaise, tonnerre d'applaudissements comme si je le méritais. Faut que je roule un balèze. Je suis en haut du top, au bord de la falaise. Mon dessin dans le sel de la marelle. Ma transpiration qui se mélange à l'aquarelle. Je vais sauver la planète, me sauver de l'aquarium. À force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. Même si la foi, à force de tir, civil par terre. À force de le lire, je finis par croire qu'à force de le dire, je finis par l'être. Même si la foi, à force de tir, civil par terre. J'ai un manga avec des insultes dans les bulles. Le rap, c'est la philosophie pour les nuls. Là, j'ai mélangé différentes molécules. Fait que je repense à tout ce qu'on aurait pu. On perd les photos, on perd pas les blessures. On perd les photos, on perd pas les rayures. Depuis le buzz, tu suces tes Ben Aden sur le vent, je te reconnais plus. Eh, c'est pas la question, c'est déjà la réponse. Mais pas la pression, je me la mets déjà. Je vis la dépression, les larmes de joie, tout en dents de scie. Je suis hypersensible, en dehors de ça, je suis déterminé. Car déterminé, parole née sous moi, je pense qu'à les baiser et les rebaiser. Que les bébés.
Bonjour Vald.
Bonjour Réveil Culture. Merci pour cette introduction.
Alors ce morceau extrait de votre album s'appelle No Friends.
Yes.
No Friends, c'est comme nous on disait autrefois No Future.
No Friends, écoute, j'ai l'impression que ça fait surtout écho à la composition de Sizi, qui se retrouve d'ailleurs sur le refrain. Et qui émettait cette espèce de sentiment, no friends, d'abandon mélancolique.
Bon, on reprend la discussion dans un instant pour pouvoir écouter la chanson jusqu'au bout, car elle se termine par une histoire, elle se termine par un dialogue.
Il y avait un tueur en série qui tuait des gens, etc., dans une ville. Et ils ont réussi à le localiser avec des maths, en fait, avec des mathématiques, parce que l'être humain est régi par des, comme des patterns, tu vois, des trucs qui... comme des habitudes, tu vois.
Ça, oui.
Et ils ont avec en appliquant des équations, ils ont réussi à restreindre un périmètre et ils ont trouvé son quartier, là où il habitait, avec des probabilités. Et le mec, ils l'ont serré comme ça, en fait. Ils ont posté des mecs et ils l'ont attrapé comme ça, avec des maths, tu vois. Sans pas besoin de témoins.
Ouais,
de ça veut bien dire qu'on a une constante, un truc en nous.
On répond déjà à un algorithme.
On répond à un... Voilà, c'est ça. C'est un putain d'algorithme. Il y a une espèce d'algorithme de la vie.
Vald, ces morceaux de discussion sur l'état du monde, la vie telle qu'elle va, qui viennent souvent s'intercaler entre deux raps dans vos albums, c'est de la création, ce sont des choses écrites ou retranscrites ou ce sont des vrais moments de reportage?
Tout dépend du morceau.
Là par exemple.
Là pour celui-là en l'occurrence, le morceau conclut un peu sur une idée, sur le déterminisme, on va dire. Et je sais que mon DJ, c'est à force de discussion avec lui que déjà j'ai des mots comme ça en tête, sinon j'aurais jamais ça en tête. Et je voulais qu'il me parle du déterminisme. Et de là, on a eu une conversation de 40 minutes interminable qui partait dans tous les sens. Et je pense que cette histoire de tueur en série qu'on a rattrapé parce qu'on a quadrillé la zone grâce à des algorithmes, parce qu'on est terriblement prévisible, je trouve que... ça mettait bien en évidence.
C'est de l'impro?
C'est de l'impro de sa part, c'est lui qui sait tout.
Et quand vous dites, dans ce même morceau d'ailleurs, extrait de votre dernier album, le rap c'est de la philosophie pour les nuls, vous êtes dans l'autodérision ou dans une forme artistique de l'autodestruction?
Ouais, je crois que je suis dur avec la profession. Mais bon, comme j'en fais, c'est bienveillant, c'est évidemment bienveillant. C'est pour dire que des fois on en fait un peu trop sur le caractère super intello du rap. On a envie de sauver le rap, de dire eh oh, c'est quelque chose quand même. Mais des fois, c'est quand même un peu bête. C'est un peu la philosophie pour les nuls.
Pourtant, votre album, c'est le plus militant de tous les albums que vous avez enregistrés, hein, c'est-à-dire aussi bien les deux autres albums enregistrés chez Universal que ce que vous faisiez avant. Vous étiez plutôt dans la déconne, là ça devient un album presque d'un artiste engagé, en tout cas énervé.
Ah, j'ai vieilli, ça y est, je suis énervé, je perds patience.
Non, c'est vrai ?
Je sais pas, probablement.
Par quoi on commence cette interview ? Est-ce qu'on commence par le fond ou par la forme ? Enfin, je vous dis ça, et si ça se trouve, on n'a pas la même définition de ce qu'est le fond et la forme. Entre les paroles, les lyrics et la musique, qu'est-ce qui est la forme et le fond pour vous, Val ?
Waouh ! J'ai l'impression que...
On est sur France Culture, je vous confirme.
Que le fond, bah, ça va rester le message. Si tant est qu'on a un message, qu'on a l'impression qu'il n'a pas été dit, au moins le dire d'une manière différente. Mais alors du coup, le dire d'une manière différente, eh bah, ça en devient le fond. Moi aussi, je me pose des questions. J'ai pas vraiment de réponse. Je dirais que tout est important, par contre. On peut pas juste mettre du fond, sinon c'est du slam. Et si on met que de la forme, c'est de la pop.
Et vous n'êtes pas dans la pop ?
Non. Même si le rap tend à devenir la pop.
Même si vous êtes un artiste populaire.
Tout à fait. Semblerait.
Vous commencez par la musique ou par les textes, ou ça dépend ?
Beaucoup de musique de Sizi. Sizi, mon compositeur avec qui j'ai fait presque tout l'album. Qui lui produit tous les jours, naturellement, comme une mauvaise habitude. Donc j'ai toutes ces compos chez moi et
ça vous inspire des textes ou
ouais,
bien
ouais ouais je les fais tourner et à un moment donné il y en a une où j'ai une phrase très évidente et après j'ai une deuxième phrase, une troisième et on a un morceau. Hein.
Ah, ce n'est pas je choisis tel thème et je le développe, c'est
globalement quand même c'est comme ça que je fais et des fois ça peut m'arriver d'avoir une idée de thème. Je vais vouloir parler de ça un moment peut-être. Peut-être. Je pense à Pension Man. À un moment donné, j'ai dit faut absolument que je fasse un morceau qui parle de ça.
C'est-à-dire de votre dans votre état de père et de jeune homme divorcé qui est obligé de verser une pension à son ex-femme.
Non, vraiment pas, surtout.
Oh bah ça raconte ça l'histoire. Ou alors j'ai rien compris. Pour une fois que je comprends un peu ce que disent les jeunes rappeurs. Dis-toi.
Non, ça parle surtout. Ça fait de l'humour sur verser des pensions aux quatre coins de la France parce que tu te protèges pas quand tu fais l'amour.
Ouais.
C'est faire de l'humour sur ça. C'est faire un hymne. Pour tous ceux qui ont des enfants aux quatre coins du monde.
Allez, on passe à l'histoire géo. Votre histoire, Vald, votre parcours et d'où vous venez. Enfin, quand je dis d'où vous venez, c'est-à-dire en ce qui concerne la géo, on sait très bien d'où vous venez. Vous le revendiquez dans pratiquement tous vos titres. On l'écoute. Aulnay-sous-Bois, donc. C'est très important pour vous de dire d'où vous venez, Val.
Je pense pas que ce soit très important.
C'est très présent dans vos rapports.
Dans ce morceau-là, Aulnay-sous-Bois, c'est très présent, évidemment.
Non, même dans les autres morceaux, ça revient.
En tout cas, sur le morceau précédent, No Friend, je finis pour parler de déterminisme social. Et pour dire que, évidemment, je suis déterminé parce que je viens d'Aulnay-sous-Bois. Et du coup, derrière, je fais un morceau avec le refrain très énervé, très sauvage d'Aulnay-sous-Bois. Pour mettre en image ça, cette espèce de déterminisme. Ouais, je viens d'Aulnay-sous-Bois, je suis un sauvage. Mais est-ce que c'est très important ? Je pense pas. Je pense que ça veut dire quelque chose. Je suis content qu'aujourd'hui ça marche pour moi et de pouvoir dire ouais, je viens d'Aulnay-sous-Bois, lourd. Mais je pense pas en faire des caisses, je pense pas.
Alors c'est quoi votre histoire, Val ? Vous êtes né vraiment à Aulnay-sous-Bois. Vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois.
Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à l'année dernière, j'y étais encore. Notre histoire, c'est quoi ? Un jeune étudiant, j'étais à l'école, ça me passionnait pas trop. J'essayais de faire du théâtre, j'ai raté. C'est pas que j'ai raté.
Mais le milieu social dans lequel vous avez évolué, c'est quoi ? C'est plutôt vos parents qui faisaient quoi ?
C'est les cités, hein. On était au 1000-1000, mes parents ouvriers et secrétaires. Et après on a déménagé, on est passé du nord au sud quand même. C'est mieux les pavillons, grâce à mes parents dans un premier temps. Ouais. Vers mes 12 ans, on a quitté les 1000-1000. Et du coup c'est ça, le milieu, le niveau, si on veut. Et à force de se faire des CD, nous voilà ce matin ensemble.
C'est-à-dire
réveil culture.
Réveil culturel. Réveil culturel. Non, mais vous voulez dire quoi, Vald? Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance, de votre adolescence?
Rien de très intéressant. Pas grand-chose de lié à Aulnay-sous-Bois. Hein. Beaucoup d'ennuis. Comme n'importe quel enfant, je crois, non?
Mais vous ne vous sentez pas lié à cette classe sociale, puisque vous avez parlé d'ouvriers, pour parler de vos parents?
Je me sens lié à la tourmente que c'est d'être obligé d'avoir un salaire, parce que sinon il n'y a rien dans le frigo. Je me sens concerné par ça, c'est sûr.
Dans une excellente interview parue dans Society, vous dites « Et ce que j'aime, c'est le rap des cités. J'écoute le rap des cités et je veux faire du rap des cités. Quand je dis rap des cités, je veux dire du rap qui parle beaucoup et qui est agressif. » Alors, ça parle beaucoup de quoi et pourquoi il est agressif ou il est agressif comment?
Bah, c'est agressif parce que on est en colère d'être en vie. Et puis, à un moment donné, on fait du rap, donc on exprime une colère. Même, c'est pas forcément de la colère, c'est aussi... C'est juste de la puissance, je pense, à un moment donné. Et qu'est-ce qu'ils disent? Putain, on dit pas grand-chose. Hein. C'est très souvent de la philosophie pour les nuls. Ou alors, une énième image sur une meuf, une énième image sur de la drogue douce. C'est quand même fou, moi je suis très admiratif que le rap, maintenant, ça fait combien de temps qu'on le développe? 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. Mmh. Et on arrive encore à faire des morceaux sur les mêmes thèmes, c'est fou. T'imagines la grandeur, l'infini potentiel de parler 40 ans après du shit. Moi, je trouve ça terriblement passionnant. Et encore avoir de la vigueur à en parler, waouh.
Mais vous parlez pas que de ça.
Non, évidemment, évidemment. Moi, je me demande ce que j'aime dans le rap des cités.
Oui, c'est ça. C'est plutôt ça.
C'est ça que j'aime bien. Je trouve ça vraiment, c'est ouf. C'est waouh. Bravo.
Vous écoutiez du rap quand vous étiez jeune, Vald? Ou il y avait d'autres musiques dans...
Pas vraiment. Jeune, ouais, si, quand même. Quand
j'ai commencé à la maison.
Quand j'ai commencé à écouter de la musique...
C'était quoi? C'était la musique de vos parents, de vos frères et sœurs? C'était quoi comme...
Ouais, mon frère, il écoutait du métal, je pense, d'adolescent commercial. Je sais plus, Marilyn Manson, des trucs comme ça.
Vos parents?
Mes parents n'écoutaient pas de musique, très étrangement. Ouais, c'était pas du genre à mettre la musique à la maison.
Et vous, vos premiers coups de cœur musicaux, du coup?
Ouais, j'ai découvert Kerry James un jour sur Internet. Après, Tandem, incroyable, Tandem. Section d'Assaut, c'est sûr que Section d'Assaut, c'est incroyable aussi. Al Capote. Et depuis que j'en fais, je suis absolument tout ce qui se fait.
Vous êtes musicien? Vous avez fait de la musique? Vous avez fréquenté une école de musique?
Piètre, bien piètre musicien. Encore aujourd'hui, je fais l'objet de moqueries au sein même de mon groupe.
Ah bon?
Qui se régale de dire que j'ai une oreille de merde. Pardon pour les auditeurs.
Et qu'est-ce que vous leur répondez? Que vous êtes quand même pas sur
le Léo, ça va, hein?
J'ai quand même fait des études, moi, et j'ai fait des études de maths. Vous avez fait des études de maths?
Tout à fait, un peu.
C'est pas bon, ça, pour un CV de rappeur, d'avoir fait des études universitaires, d'être allé jusqu'au bout, non?
Ça dépend, ça dépend. Maintenant, bon. Avec ce rap capitaliste, on a envie de mathématicien.
Qu'est-ce que vous appelez par rap capitaliste?
Ah bah maintenant, c'est du rap qui veut faire de l'argent. À l'image du monde, hein. On veut faire de l'argent.
Et vous-même?
J'ai très envie de faire de l'argent.
Voilà, ça c'est pour les mathématiques, on passe à la physique, chimie. Je ne sais pas si vous avez lu le portrait que vous a consacré le spécialiste de rap de Libération, mais il parle de vous comme un quota inversé. Bref, le petit blanc minoritaire dans un courant musical dominé par les Noirs et les Arabes.
Waouh. Je crois que j'avais pas l'application, j'ai pas pu lire son article.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Que je suis minoritaire? Je pense pas, on est beaucoup de blancs quand même en ce moment dans le rap. Je pense à Aurel San, Nekfeu, Roméo Elvis.
Ouais.
Le V.
Mais c'est important pour vous, puisque ça a été écrit. Est-ce qu'on peut dire, Valentin Leduc, pour reprendre votre nom, est-ce que vous vous sentez minoritaire, quelque part, que ce soit à Aulnay-sous-Bois ou dans le rap?
Non, peut-être qu'à un moment donné, il y a quand même moins de blancs que d'autres choses dans le rap, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas. Est-ce que ce que ça veut dire, c'est grave? J'en sais rien. Je crois même que même ça compte pas du tout pour moi, ni même pour les membres de cette culture, hein. Je suis même plutôt triste quand on fait un gros titre pour dire, pour extraire de notre interview, je sais plus avec quel média, ouais, je suis juste un babtou qui rappe. Genre, je
disais. Mais vous l'avez dit en même temps.
Ouais, mais parce qu'il me gonflait à poser 40 000 questions sur Aulnay-sous-Bois, et alors ta place dans Aulnay-sous-Bois, ouais, je suis juste un babtou qui rappe, quoi, je vois pas c'est quoi le. Tu sais, y a rien de. Y a R.
Vous le dites dans un morceau autour du déterminisme social qu'on s'appelle Armand ou Amar, c'est la même chose.
Qu'on s'appelle Amar ou Patrice.
Patrice, ouais.
On est bloqué dans la matrice.
On est bloqué dans la matrice.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est une manière de répondre à cette question, quand même.
Est-ce que c'est pas beau? On se retrouve unis, tous ensemble, parce qu'on est tous esclaves de la même merde. Faut faire de l'argent, sinon on mange pas.
Vous dénoncez le MEDEF, la non-répartition de la richesse, l'arrogance des plus riches et la société culpabilisatrice.
Ouais.
Et là, dans ce morceau, il n'y a plus de place pour le registre comique qui vous a fait connaître. C'est le morceau qui porte le titre de l'album. On l'écoute et on en parle après.
C'est parti.
Ce monde est cruel, j'ai pas trouvé d'autres conclusions. Ça brille au fond du tunnel, j'espère que ce n'est pas une illusion. Je les vois changer pour de l'oseille, devenir de sombres trucs. Oseille, 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 en voilà un sombre but. En manque de tous ces clairs, je me moque de toutes ces règles. En manque de tous ces clairs, je me moque de toutes ces règles. La voix de la foule s'élève, j'empoche un bout d'hélène. Mais ça me rend seul, c'est vrai. Bientôt la coupe est pleine. J'pense aux milliardaires qui bloquent le jeu, c'est pas fair play. Plus que pas fair play, c'est un truc de fils de pute. Ce monde est cruel, fais ton argent, ferme ta gueule. Parle-nous du bénéfice, même si les mots n'ont pas de valeur. Ce monde est si cruel, c'est sûr que ces gens viennent d'ailleurs. Je rêve de leur planète, la main sur le fusil mitrailleur. Je les vois, les autres qui rient, je me demande s'ils ont compris. La fin du monde est proche, et moi, je suis tellement loin de mes proches. Y'a tellement de choses qui clochent, mais dire c'est bien, rien faire, c'est moche. L'enfer tient dans mes poches, l'enfer s'invite dans mes loges. Ce monde est cruel, comme le projet MK Ultra. Plus secret qu'un agent secret, un agent qui ne le sait pas. Ce monde m'assure la tête de manière abusive. Je suis seul sur la terre, les autres sont à l'usine. Ce monde est cruel, fais ton argent, ferme ta gueule. Parle-nous du bénéfice, même si les mots n'ont pas de valeur. Ce monde est si cruel, c'est sûr que ces gens viennent d'ailleurs. Je rêve de leur planète, la main sur le fusil mitrailleur.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Vald ce matin. Alors, ce monde est cruel, c'est vraiment une chanson engagée là pour le coup.
C'est une balade engagée.
C'est une balade. Non, mais on peut parler aussi de la musique. C'est vrai que la musique, elle est légère, elle donne envie effectivement de danser. Mais pourtant, les propos, c'est des propos qui résument très bien la colère des gilets jaunes, par exemple. Quand je vous entends rapper « En manque de tout, c'est clair, je me moque de toutes les règles ». Voilà, ça aurait pu être effectivement le slogan des manifestants en colère à la limite de la rébellion.
C'est possible. Je serais très honoré si les gilets jaunes chantaient « Ce monde est cruel ».
Vous êtes bien placé pour parler de ça. Vous qui vous revendiquez apolitique, par ailleurs. Dans les interviews, vous dites que vous ne votez jamais.
Ouais, effectivement. Et je me retiens évidemment d'influencer qui que ce soit à voter quoi que ce soit. Genre, ouais. Non, je suis incompétent. Vaut mieux que je me retienne de parler de ça. Je vais polluer le débat.
Mais pourtant, vous avez une petite idée de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe en France. Vous en parlez dans vos chansons et dans cet album très particulièrement, Vald.
Ouais, vaguement. À part dire que, évidemment, à un moment donné, il y a des milliardaires qui bloquent le jeu. Et que si on dit pas que c'est des sataniques, c'est au moins des fils de pute.
Ouais.
Je dis pas grand-chose, quoi. Je suis un artiste. Un rappeur.
La philosophie de l'absurde, vous l'appliquez au rap, yes. Vald.
Qu'est-ce qu'on appelle la philosophie de l'absurde?
Ça, je sais que vous savez très bien ce que c'est, parce que je sais que vous êtes intéressé à la philosophie. Vous avez failli, d'ailleurs, devenir mathématicien comme Cédric Villani, puisque vous êtes allé au bout de vos études de maths. Vous avez failli devenir un docteur romantique, genre docteur Slaughter. C'est une référence pour vieux, donc. Mais bref, parce que vous avez fait des études de médecine pour l'amour d'une fille.
Voilà. Respectons les médecins. J'ai fait qu'un semestre.
Et vous êtes attiré par la philosophie depuis toujours, si j'ai bien compris.
Ah, je pense que ça va nous tirer vers le haut à un moment donné. La philosophie, la spiritualité, l'ésotérisme, ça m'intrigue, ça me passionne, de loin.
Et puis, le rap, vous êtes arrivé au rap par le théâtre, parce que avant de faire du rap, vous vouliez apparaître sur scène, vous vouliez jouer, vous vouliez être comique, vous vouliez faire du théâtre.
C'est fou. Ouais. Je sais pas d'où ça me vient, je sais pas pourquoi je me suis... C'est vrai qu'on m'a reposé les questions récemment, je sais plus pourquoi je me suis inscrit au théâtre et pourquoi je voulais être comique. Je crois que je regardais les DVD en boucle, en fait. Ouais. Je crois que je regardais Maxime, qui faisait Le Portier, en boucle. Et Raymond Devos en boucle. Et Jean-Marie Bigard en boucle aussi, je crois. Les best-of, quoi, des mecs, je regardais ça en boucle. Les Inconnus.
Dans votre chambre, enfermé avec...
J'en ai bien peur, ouais.
Ouais. Jeux vidéo, YouTube, sous perfusion de YouTube, c'est ça?
Ouais. De plus en plus, là, maintenant, qu'on est beaucoup en déplacement, en tournée, tout ça. C'est vrai.
Et maintenant, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre vie, dans le rap? C'est le fait de composer, d'écrire, de chanter, d'enregistrer des disques ou d'être sur scène?
Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir envie de recommencer. Je suis content, là, on a sorti notre CD, ça fait une semaine et demie, deux semaines. Mm-hmm. Et vas-y, j'en
ai... Vous n'êtes pas le seul à être content, même l'industrie musicale doit être contente.
Ouais, mais je pourrais m'ennuyer.
D'ailleurs, je rappelle que demain, sur France Culture, Emmanuel Laurentin, dans son débat, va parler justement du rap. Le rap va-t-il sauver l'industrie du disque? C'est dans le temps du débat, demain, à 18h20.
Tiens. C'est sûr que ça va sauver. Ouais. Ça l'a déjà sauvé.
Comment? Pourquoi? Parce que...
Beaucoup trop de ventes de CD, beaucoup trop de concerts, beaucoup trop de merchandising, beaucoup trop d'artistes rap qui pètent.
Et vous?
Et nous aussi on pète, du coup ça fait plaisir à l'industrie, c'est sûr et certain.
Dans 10 ans, vous vous imaginez sur scène en train de faire du rap, la manière de Booba ou vous rêvez d'être ailleurs? Genre acteur, parce que vous faites tout pour devenir comédien. Ouais. Vous n'avez pas abandonné cette idée, Val, de devenir comédien?
Mais c'est tellement un autre métier. Et là, la place que j'ai dans la musique, à mon niveau, je suis réalisateur en fait. Et j'ai pas du tout le niveau pour être réalisateur de film. Là, c'est carrément autre chose. Si c'est juste être acteur, bon, bah effectivement, j'attends qu'on m'appelle. Mais réalisateur, j'ai vraiment vu ce que c'était pour avoir travaillé un peu de loin. J'ai vu ce que c'était. Waouh, les mecs, c'est... Là, c'est pas mon niveau, c'est pas mon métier du tout. Mais du coup, si on m'appelle, appelez-moi, avec joie.
La tête, ce monde est cruel.
Ce monde est cruel. Et comme je suis bleu, blanc, rouge, je suis Crips et finalement Blood. Fait que ce monde est bruel.
Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça, j'ai tout dit.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ça y est, j'ai tout dit.
Pas manger, ça fait mourir.
Yeah.
Et je suis habitué au chauffage.
Yeah.
Tes besoins vitaux sont payants.
Yeah.
T'as compris la prise d'otage.
Yeah.
Depuis tout petit dans la merde.
Merde.
Tu sais qu'il faudra mailler.
Yeah.
Au moins un peu pour loyer.
Yeah.
Au moins un peu pour grailler.
Yeah.
Depuis tout petit dans la merde.
Yeah.
On t'apprend à travailler.
Yeah.
Personne va te ravitailler à l'œil. Personne va s'apitoyer. Ma gueule,
ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Et je peux développer encore. Je te le fais sans aucun effort. Pour travailler, donc pour manger. On te prend à 3 ans, on te lâche à 25. Tes meilleures années, si tu pars avant, tu démarres en bas de la pyramide.
Val, merci d'être venu ce matin. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec bien accompagné.
Avec Sizi, avec Loa, avec Lisabé, avec Nico Oyer.
Des amis, des associés.
Toute mon équipe, mes compositeurs, mes managers, mes assistants, tout.
Et de l'autre côté de la ville, il y avait aussi Corinne Amar qui s'occupe de la coordination du Réveil culturel, Manu Couturier à la prise de son ce matin et Vincent Abouchard à la réalisation. Merci d'être venu, Valde.
Merci beaucoup de l'invitation.
Et le titre de l'album, on le rappelle,
Ce monde est cruel.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Le procès du siècle s'ouvre et c'est le capitalisme qui se trouve sur le banc des accusés. Jamais les critiques n'avaient été si nombreuses contre la concentration extrême des richesses et la recherche effrénée du profit. Le capitalisme, vieux d'au moins 5 siècles, doit-il se perpétuer? Peut-il se réformer? Ou faut-il au contraire hâter sa disparition? Voilà les causes qui seront plaidées à la barre. Accusé capitalisme, levez-vous.
Entendez-vous l'écho, de lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr. Écoutez, prenez le temps d'écouter. Au cœur de Paris, l'auditorium de Radio France accueille plus de 200 concerts. Symphonies, concertos, chœurs, jazz, récitals, opéras, avec les artistes les plus prestigieux. Prenez le temps de vous retrouver à l'auditorium de Radio France. Entrez au cœur du concert. Abonnement et réservation, maisondelaradio.fr.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Un peu plus d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, des membres de la commission d'enquête du Sénat seront sur place aujourd'hui. Alors que l'inquiétude de la population perdure, les questions continuent d'affluer, nous dira l'avocate juriste de l'association pour l'information sur les problèmes pénaux. C'est une grève générale qu'Emmanuel Macron a vue hier à la Réunion pour l'accueil de cette première journée de visite du président de la République dans ce territoire où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Reportage dans ce journal. Nous irons aussi en Israël après l'échec de Benjamin Netanyahou à former un gouvernement. Benny Gantz a 28 jours maintenant pour relever le défi. Quelles sont ses chances d'y parvenir? Analyse d'Alice Froussard depuis Jérusalem dans ce journal. L'inquiétude persiste et beaucoup de questions restent encore en suspens un peu plus d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Alors que des membres de la commission d'enquête du Sénat se rendent sur place aujourd'hui, la VIPP, l'association d'aide aux victimes et information sur les problèmes pénaux, a mis en place une sorte de guichet unique depuis lundi à la mairie. Ce sont des bénévoles comme la juriste Véronique Delaunay qui tentent d'apporter des réponses aux habitants.
Il y a besoin d'être, en tout cas, faute d'être vraiment rassuré, en tout cas, il y avait un besoin d'être pris en considération. C'est des gens qui se sentent quand même victimes, même si, a priori, on nous a bien dit effectivement qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient décédées ni blessées. Il y a des personnes quand même qui se sentent victimes parce qu'elles ont été très mal pendant plusieurs jours, elles ont été perturbées dans leur vie quotidienne, elles ont des angoisses. J'ai eu beaucoup d'appels de femmes enceintes qui avaient là effectivement des grosses angoisses et qui en plus de ça n'avaient pas forcément toujours eu le bon interlocuteur pour les rassurer ou en tout cas le médecin qui va prendre en considération ces craintes.
Véronique Delaunay, juriste de l'association AVIPP, au micro France Bleu Haute-Normandie de Christine Wurtz. 200 personnes ont déjà contacté l'association. Deuxième journée de visite à La Réunion pour Emmanuel Macron. Hier, il a été accueilli par une grève générale dans ce territoire où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage atteint 24% et même 42% chez les jeunes. Reportage sur place de Yannick Falt.
Emmanuel Macron prend la température dès son arrivée, un bain de foule pourtant très encadré sous des trombes d'eau, place de la Victoire.
La vie chère, parce que ici vous avez vu, c'est cher, on ne peut plus vivre. Est-ce que vous pourrez vivre avec moins de 1500 euros ici à La Réunion?
La vie chère, une expression refrain dans les discours, tout comme les problèmes d'emploi, parfois sur des sujets très spécifiques, exemple la faillite de la compagnie XL Airways.
Je suis au RSA, mon mari ne travaille pas. Et nous, tu devrais voyager, mais...
Je sais, après, il faut qu'on l'aide à ce qu'il trouve un travail pour qu'il puisse se payer.
Trouver un travail, c'est la priorité de Grégory, 35 ans, dans un domaine pourtant très porteur.
Je recherche en plus dans l'informatique. Il y a pas mal d'opportunités en principe, mais c'est quand même très compliqué sur l'île de La Réunion. On voit très peu d'offres d'emploi et c'est vrai que c'est difficile de postuler et trouver un emploi.
Près d'un réunionnais sur quatre est au chômage, 42% des jeunes surtout, de quoi inquiéter jusqu'au lycéen, comme Maël, tout juste 16 ans.
Est-ce qu'on va pouvoir, même en ayant un diplôme, trouver un emploi à l'avenir? C'est vrai que pour chercher un emploi, ce serait beaucoup plus facile en métropole et j'ai déjà songé, oui, à partir.
Changement d'ambiance à 8 km de là, rond-point de Gilot à côté de l'aéroport. Rendez-vous des gilets jaunes il y a un an. Ils sont cette fois une centaine, la plupart sans gilet, dont Joséphine, une aide-soignante.
Les gens en général ont besoin de voir des choses concrètes, de payer moins cher quand ils passent à la caisse. Les belles paroles, je pense qu'on en a un peu marre. Il y a le monopole des grandes familles coloniales qui sont encore en activité à La Réunion. On voit les gros groupes, voilà, il n'y a rien qui est fait. Rien.
Allez, bonne réunion, sans taper dehors. Viens, viens.
L'ambiance s'échauffe, l'expression d'un ras-le-bol pour Bruno, un éducateur de 47 ans.
Les Réunionnais, ils n'ont rien quand les enfants ouvrent le frigidaire. Il n'y a que des briques de lait et des biscottes. La Réunion est en train de devenir misère. Il n'y a pas de travail, il n'y a plus rien à La Réunion.
Quelques jets de pierres et de bouteilles, un portrait d'Emmanuel Macron brûlé. Le rassemblement est dispersé à coups de gaz lacrymogène. Un mouvement désormais marginal mais en voie de radicalisation pour les autorités locales.
Yannick Falt, dès son arrivée, Emmanuel Macron a promis une exonération supplémentaire de cotisations patronales à hauteur de 35 millions d'euros, mesure votée hier soir par l'Assemblée nationale. En Bolivie, grève générale aussi hier pour contester les résultats toujours provisoires de l'élection présidentielle. Evo Morales, au pouvoir depuis 13 ans, a répété encore hier qu'il était certain d'avoir remporté l'élection dès le premier tour. Il dénonçait une tentative de putsch, mais les résultats sont toujours partiels et certaines estimations publiées il y a quelques heures laissent supposer à nouveau la possibilité d'un second tour face à Carlos Mesa. Dans le Chili voisin, la contestation sociale se poursuit. Des milliers de personnes sont encore descendues dans la rue hier, notamment dans la capitale Santiago. Les émeutes ont éclaté depuis vendredi. Elles ont fait 18 morts et les annonces sociales hier du président Piñera n'ont pas apaisé la colère. Benny Gantz pourra-t-il réussir là où Benjamin Netanyahou a échoué? La mission aujourd'hui du rival centriste de l'actuel Premier ministre israélien est de former un gouvernement. Il aura 28 jours pour y parvenir. S'il y parvenait, ce serait un exploit mettant fin au règne de celui que l'on surnomme Bibi, au pouvoir depuis 2009. D'autant plus que l'ex-général de l'armée est arrivé en politique il y a moins d'un an. Alors quelles sont les chances de Benny Gantz? Alice Froussard nous appelle de Jérusalem.
Autant mathématiquement qu'idéologiquement, les chances de Benny Gantz de former une coalition sont encore plus faibles que celles de son rival. Deux options s'offrent à lui. Soit il forme un gouvernement d'union nationale, mais en acceptant Benjamin Netanyahou et avec une alternance à la tête de l'État. Soit il privilégie un gouvernement minoritaire de centre-gauche. Ce serait du jamais vu en Israël et une probable paralysie politique car il ne pourrait pas imposer son agenda législatif. Sauf s'il y a des surprises, sauf si certains députés du parti de Netanyahou décident de lui faire défaut, la mission relève donc de l'impossible. Benny Gantz n'est pas un magicien, soulignent les observateurs de la politique israélienne. Mais l'idée de se rendre aux urnes pour la troisième fois en moins d'un an révulse la plupart des Israéliens. L'ex-général pourrait donc miser sur cet argument, miser sur un changement d'époque pour convaincre. D'autant que de troisièmes élections n'éclairciraient pas forcément la situation, car selon un récent sondage de l'Institut israélien pour la démocratie, une écrasante majorité de la population pourrait revoter exactement de la même manière.
Alice Froussard à Jérusalem pour France Culture. De l'autre côté de la frontière, l'Égypte tente actuellement de sortir de l'impasse dans les négociations en cours avec l'Éthiopie au sujet du grand barrage que construit actuellement Addis Abeba sur le Nil Bleu. Le Caire a accepté hier une proposition américaine de médiation alors que le ton n'a cessé de monter au cours des jours précédents entre les dirigeants éthiopiens et égyptiens. Les précisions au Caire de Martin Roux.
Aucune force n'entravera la construction du barrage. Le premier ministre éthiopien a haussé le ton mardi face aux provocations du Caire. Le lauréat du prix Nobel de la paix n'a pas non plus hésité à ajouter que son pays était prêt à mobiliser des millions d'Éthiopiens. Après des mois de négociations, les positions de ces deux puissances régionales restent irréconciliables et le Caire redoute de plus en plus d'être mis face au fait accompli sans accord relatif au partage des eaux du Nil, alors que le grand barrage de la Renaissance est déjà achevé à 70% et qu'il pourrait produire ses premiers kilowatts à la fin 2020. Rêve de développement pour l'Éthiopie qui va plus que doubler sa production d'électricité. Pour l'Égypte, ce barrage construit sur l'affluent principal du Nil est perçu comme une menace existentielle. Actuellement, les tensions portent sur le temps de remplissage de l'immense réservoir. Le Caire voudrait étendre cette étape au maximum pour éviter une baisse trop forte du débit du fleuve qui représente 90% de ses ressources en eau. Le président égyptien compte ainsi sur le soutien d'une médiation internationale et vient d'accepter une rencontre chapeautée par les États-Unis. Avant cela, Abdel Fattah el-Sissi pourrait rencontrer aujourd'hui son homologue éthiopien à Sotchi en marge d'un sommet Russie-Afrique. Dans ce bras de fer interminable, l'Éthiopie n'infléchit pour l'heure en rien ses projets et a tout intérêt à faire durer ses négociations.
Martin Roux pour France Culture. Les 39 corps retrouvés dans un camion près de Londres hier sont toujours en cours d'identification. Le camion arrivé de Belgique, le conducteur, un jeune homme originaire d'Irlande du Nord, a été arrêté. Pour l'instant, personne ne confirme que les victimes seraient des réfugiés clandestins, mais la police britannique travaille en liaison avec la brigade criminelle spécialisée dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Au Louvre, aujourd'hui, c'est une exposition très attendue qui s'ouvre. L'exposition Léonard de Vinci, 500 ans après la mort du génie de la Renaissance italienne. Exposition qui affiche déjà complet 260 000 billets déjà achetés en pré-vente. Alors face à l'affluence, réservation indispensable. La météo, deux départements sont toujours placés en vigilance orange ce matin. Alerte aux orages et aux inondations sur l'Hérault et la Haute-Corse. Alerte levée en revanche sur les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Attention donc sur ces départements. Des orages sont annoncés également, mais pas d'alerte sur la Bretagne et la Normandie. Les Pays de la Loire aussi sont concernés par des averses. Temps sec annoncé partout ailleurs. Les températures sont comprises entre 12 et 20 degrés ce matin, avec 12 degrés à Amiens, 13 à Paris, 15 à Lyon et jusqu'à 20 degrés sur la Corse. Il est 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du Journal des Idées avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Sophie Delpont, bonjour à toutes et à tous.
Le rejet de trois candidats à la Commission par le Parlement européen, dont la française Sylvie Goulard, fait courir à l'Union européenne un risque de blocage institutionnel.
Et oui, c'est l'avis de deux spécialistes de la politique européenne, Alberto Alemano et Stéphane Seidendorf, dans Le Monde. Le rejet du Spitzenkandidat, Manfred Weber, imposé par le PPE, puis du candidat des sociodémocrates, le néerlandais Frans Timmermans, à la tête de l'exécutif européen, ainsi que celui de Sylvie Goulard au poste de commissaire en charge du marché intérieur, a entraîné le report du vote de confiance à Ursula von der Leyen et à sa commission initialement fixée au 23 octobre, ce qui devrait empêcher l'entrée en fonction de l'exécutif européen, la date prévue le 1er novembre, estime-t-il. Ils évoquent des manœuvres politiciennes entre partis pro-européens ayant conduit à ce résultat et leur conseillent de profiter de ce gain de temps pour négocier un contrat de coalition avec la nouvelle commission. Dans l'affaire, le Parlement endosse le mauvais rôle puisque ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont désigné la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, alors qu'elle n'était ni candidate aux élections européennes ni à la présidence de la Commission. Si c'est une bonne chose de prendre enfin en compte les rapports de force existants entre institutions européennes, cela eût été encore mieux si cette initiative était venue du Parlement, estiment les politistes, qui insistent sur la nécessité d'un accord de coalition imposé comme condition préalable au soutien du Parlement à la Commission. Cela aurait pour effet de rééquilibrer le rapport de force entre ces deux institutions. Il en va de la responsabilité démocratique de tous les partis pro-européens de soutenir la nouvelle Commission en contribuant ensemble à l'élaboration de son programme politique, conclut-il. Rappelons que les partis pro-européens, outre le PPE et les sociodémocrates, rassemblent les Verts ainsi que les libéraux de Renew Europe où siègent les députés de La République En Marche. Une telle coalition laisse présager des lendemains difficiles à la bonne marche de la démocratie européenne, alors même qu'il serait opportun, dans la crise qu'il traverse partout dans le monde, que le projet démocratique s'illustre avec force d'exemple sur le continent où il est né. Autre question épineuse posée dans la page débat de La Croix à propos de la Convention pour le climat. Peut-on réformer la démocratie? 150 citoyens tirés au sort vont en effet formuler des propositions sur la transition écologique que le gouvernement s'est engagé à soumettre au Parlement ou au référendum. Pour Dimitri Courant, chercheur en sciences politiques, la démocratie représentative ne garantit au fond ni la souveraineté du peuple ni la représentation de toutes les catégories socio-économiques. Le tirage au sort, vieille pratique athénienne, lui semble pouvoir renouveler le modèle et remédier à ces deux échecs patents, l'accroissement des inégalités et l'extinction du vivant. Véronique Naumgrapp revient sur son expérience des jurés d'assises et également tirée au sort. L'attention requise de chacun des jurés, appelé à faire taire préjugés et jugements antérieurs pour entendre la parole des victimes, des accusés et des experts, que permet le cérémonial judiciaire, lui apparaît comme le modèle d'une véritable délibération citoyenne. Je signale d'ailleurs au passage que ce débat se déroule en partenariat avec l'émission d'Emmanuel Laurentin, Le Temps du Débat, sur France Culture, à retrouver donc ce soir à 18h20. Consultation citoyenne sur le climat, sur le revenu. revenu universel, sur les retraites, référendum d'initiative partagée. Voici venu le temps de la démocratie participative, réponse naturelle à la soif d'expression populaire surgie sur les ronds-points des gilets jaunes et à la crise de la représentativité politique, affirme Joseph Veillard dans l'Express. Mais il estime que pour le RIP, la barre a été placée trop haut. La demande de l'organisation d'un référendum sur la privatisation des aérodromes de Paris doit recueillir 10% des inscrits, soit 4,7 millions de signatures, avec seulement 829 400 soutiens enregistrés au dernier pointage. Ses partisans sont encore loin d'avoir recueilli de quoi soumettre le sujet au scrutin. Le référendum d'initiative citoyenne est institué dans 36 pays comme l'Italie, le Kenya, la Slovénie ou le Pérou. Mais la moitié d'entre eux ne l'ont jamais utilisé. Deux chercheurs ont observé que le système ne fonctionnait pas s'il requérait un seuil d'inscrits trop important. À Taïwan, où aucun référendum d'origine populaire n'a été organisé depuis l'adoption de la loi qu'il a instaurée en 2003, 10 l'ont été l'année dernière du fait que le seuil de signature a été abaissé de 5 à 1,5%. 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gagnon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, l'Union européenne ferme pour l'instant ses portes à deux pays candidats, la Macédoine du Nord et l'Albanie.
Oui, à l'heure où le Royaume-Uni la quitte, bon an mal an, d'autres pays aspirent toujours à la rejoindre l'Union européenne. C'est le cas des pays des Balkans de l'Ouest, dont la Macédoine et l'Albanie, les plus avancés dans le processus. Sauf que la France a mis son veto lors du dernier Conseil européen, et ça fait suite à votre journal des idées, Jacques Munier, c'est une sorte de mise en difficulté avant son intronisation de la commission d'Ursula von der Leyen qui plaide, elle, pour une relance de l'élargissement. Alors la France s'oppose ne serait-ce qu'à l'ouverture de négociations d'adhésion et en matière d'élargissement, l'unanimité est la règle. Donc tout est gelé pour ces deux pays. Bonjour Loïc Trégourès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'Université catholique de Lille. La Macédoine du Nord et l'Albanie avaient d'ores et déjà préparé leur candidature d'adhésion. Qu'est-ce qu'elles avaient déjà entrepris au nom de l'Europe ?
Alors, pour prendre une mesure des deux côtés, en Albanie, on avait entamé un processus de vetting, donc c'est-à-dire on a passé au crible la vie et la carrière de tous les juges, parce qu'il y a un très gros problème dans la justice. Et effectivement, beaucoup d'entre eux avaient été suspects, étaient corrompus, etc. Donc on en a retiré beaucoup, y compris à la Cour constitutionnelle, ce qui pose problème aujourd'hui. Et pour la Macédoine, la principale mesure, c'était de régler la question du nom avec la Grèce, et donc d'accepter de se rebaptiser Macédoine du Nord afin de lever le veto grec qui existait depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'était les deux mesures principales d'un côté et de l'autre, ce qui a permis à la Macédoine de débloquer son intégration à l'OTAN, par exemple. Néanmoins, on savait déjà depuis 6 mois, parce que ça s'est déjà produit il y a 6 mois, on savait déjà que pour l'Albanie, ce serait non, parce que plusieurs pays s'y opposaient. Donc la vraie question, c'était est-ce qu'on découple les deux pays ou pas ? Et au fond, ça veut dire que peu importe ce qu'ils auraient fait ou pas fait, la question c'était pas eux, c'était nous. Voilà, la principale décision n'est pas prise en fonction de ce que eux auraient fait ou pas fait, mais en fonction de ce que nous on pensait. Quand je dis nous, je veux dire la France.
La France, et notamment la France, est elle qui a mis son veto. Qu'est-ce qui manque ? Emmanuel Macron a dit tous les progrès réclamés aux deux candidats n'étaient pas là. Qu'est-ce qui manque d'après lui ?
Non, alors, il a dit plusieurs choses. Il a dit le processus lui-même ne marche pas. Ce qui peut se défendre, sauf que la France n'avait jamais mis en avant cet élément, n'a jamais rien proposé non plus. Donc là, ça tient davantage du prétexte, d'autant que, par ailleurs, on continue d'ouvrir des chapitres avec la Serbie et le Monténégro. Il a dit aussi que 27, c'était déjà trop. Bon, mais alors là, de deux choses l'une. Soit vous dites que 27, c'est trop par principe, et vous dites qu'une fois pour toutes, vous êtes contre l'élargissement quoi qu'il arrive. Soit vous dites que, ah, mais c'est parce que à 27, ça fonctionne pas, il faut réformer l'Union d'abord, etc. Sauf que la recherche montre que c'est parce qu'on élargit qu'on réforme. Donc l'élargissement, approfondissement, c'est un faux dilemme. Et deuxièmement, on parle d'un petit pays, la Macédoine, d'1,8 million d'habitants, qui intégrerait peut-être dans 15 ans. Et donc ça n'a pas de sens de dire aujourd'hui déjà qu'à 27 ça fonctionne pas, comme si ça fonctionnait mieux à 15 à l'époque. Il y a des moments à l'époque où à 15, ça fonctionnait pas non plus.
Donc si les négociations avaient effectivement commencé juste après ce dernier sommet européen, ça aurait mis 15 ans, donc le temps de réformer l'Union européenne, comme le dit Emmanuel Macron, qui d'ailleurs n'a pas non plus caché ses préoccupations de politique intérieure. Il a dit, le président français, « Comment voulez-vous que j'explique à mes concitoyens que le deuxième pays qui demande le plus l'asile politique en France, ce sont des gens qui viennent de l'Albanie ?» Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours en Albanie, et malgré les réformes, certaines réformes, dont celles que vous avez citées précédemment, un désir fort et massif de tout quitter pour la France ?
Pas pour la France spécifiquement. La France n'est pas la seule...
C'est Emmanuel Macron qui a dit que ce serait...
La seule destination, loin de là d'ailleurs, des Albanais. Mais c'est un petit peu facile de dire ça et de mêler en même temps la liberté de circulation, l'ouverture. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement liées. Après, le courage du politique, bon, peut-être qu'on peut aussi avoir le... Ça n'a rien à voir, mais peut-être qu'on peut aussi avoir le courage d'expliquer aux Français pourquoi il faut rapatrier nos djihadistes plutôt que de les laisser en Syrie. À un moment donné, la politique, c'est aussi ça. Il a dit une dernière chose aussi qui est assez discutable, c'est de dire que c'est de s'opposer au découplage donc des deux pays sous prétexte que ça créerait des problèmes de sécurité par rapport aux Albanais du nord de la Macédoine. Ça c'est vraiment très discutable comme raison, et encore une fois le découplage ne s'est pas fait parce que la France s'y est opposée. La France était seule sur la Macédoine. Voilà.
Alors, Loïc Trégourès, la France, en effet, est la seule à avoir mis son veto. Le Danemark, les Pays-Bas ont émis des réserves, simplement. Alors, quels sont les pays de l'Union européenne qui, au contraire, plébiscitent cet élargissement à l'Albanie et à la Macédoine du Nord? Et pourquoi? Sur quels arguments?
Alors, plébiscite, c'est un grand mot, mais les autres pays, notamment l'Allemagne ou le Bundestag, avaient voté... une résolution, y était favorable, le Parlement européen y était favorable, la Commission européenne y était favorable. Les deux principaux arguments, c'est que, d'une part, les deux pays en question ont fait des choses, enfin, trois arguments. D'une part, ils ont fait des choses. D'autre part, nous avons promis au sommet de Thessalonique de 2003 que le chemin de ces pays était l'intégration européenne, un jour. Et troisièmement, il y a l'argument plus plus actuel de dire dans les Balkans, il y a des influences extérieures, il y a des problèmes sécuritaires.
Quelles influences extérieures, pardon, Loïc Trégourès? Parce que c'est vrai qu'on parle de la Russie, de la Turquie notamment, ou de la Chine, mais dans quelle mesure sont-elles des menaces ou de quelle manière peuvent-elles en profiter?
Des menaces sur le plan...
Pour l'Europe, je veux dire.
Qui
parle de profiteurs.
Ça dépend des cartes qui sont jouées. Les Russes jouent la carte, si vous voulez, de la République Srpska, donc qui est la partie serbe de la Bosnie. En Chine, il y a énormément d'investissements qui sont faits, qui posent des problèmes d'endettement. Par exemple, le Monténégro ou en Bosnie. Mais il y a l'idée que on éloigne stratégiquement de l'orbite européenne ces pays-là à mesure que l'Union européenne ne devient pas le seul jeu dans la ville, pour le dire en français. Et ça, c'est une difficulté qui peut se poser, qui se pose peut-être un petit peu aujourd'hui, mais qui peut se poser en fait à long terme. Parce que les Balkans, quoi qu'on en dise, c'est une enclave à l'intérieur de l'Union européenne.
Loïc Trégourès, les Balkans, notamment la Macédoine votera au printemps prochain lors de législatives anticipées qui ont justement été déclenchées par le Premier ministre social-démocrate à cause de cette reculade européenne sur l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Il se dit très déçu. Est-ce qu'il y a en Macédoine du Nord des forces politiques que cette nouvelle donne arrange des partis eurosceptiques qui pourront et peuvent d'ores et déjà faire du rejet de l'Europe le centre de leur campagne et de leur discours?
Alors, c'est pas tant le rejet de l'Europe que le rejet de l'accord sur le non. Donc, le parti nationaliste qui a perdu le pouvoir parce que les citoyens l'ont chassé il y a 3 ans.
Vous parlez bien du nom NOM, hein, le nom de la Macédoine du Nord et pas le nom,
parce que c'est vrai quand on parle du nom aujourd'hui
sur l'Europe.
Bien sûr, le fait de se baptiser. Alors, ce parti-là se frotte les mains, bien sûr. Il va faire campagne, non pas contre l'intégration européenne, ils sont pour, mais contre cet accord. Alors, peut-être. Ou bien peut-être que ce sera un fait accompli, ils n'ont pas eu à faire le sale boulot, c'est très bien, on verra. Mais en tout cas, ce sera nettement moins facile de discuter avec eux que de discuter aujourd'hui avec le SDSM de Zoran Zaev. Je veux dire, dans la région, C'est pas la panacée, Zorandref, mais c'était probablement le moins illibéral de tous les responsables politiques, non seulement de Macédoine, mais aussi de la région. Donc, si le président français, qui a fait de la lutte contre l'illibéralisme en Europe, ne s'appuie pas sur lui dans la région, et au contraire, il lui scie la branche, je vois pas sur qui il peut s'appuyer, en tout cas certainement pas sur le président serbe, qui incarne, lui, l'illibéralisme dans la région.
Il faut rappeler que les nationalistes étaient au pouvoir en Macédoine de 2006 à 2016, c'est encore tout récent. Parmi les pays des Balkans qui souhaitent intégrer l'Union européenne, donc la Macédoine et l'Albanie étaient les plus avancés dans le processus, mais par ailleurs le Monténégro, la Serbie se sont engagés dans des négociations censées aboutir en 2025. Le Kosovo et la Bosnie demandent le statut de pays candidat. Ils pourraient tout laisser tomber.
Non, on ne laisse pas tomber, surtout pas ceux qui ont déjà ouvert des chapitres, parce que par ailleurs, on continue d'ouvrir des chapitres. 2025, c'était vraiment une date indicative, hein. Il n'y a vraiment pas d'obligation là-dessus, et chacun sait que ça se produira pas en 2025. Mais vous voyez que si vous bloquez complètement la Macédoine, dans la région, on n'est pas stupide. Le président Vučić a expliqué hier dans le Financial Times que la parole de l'Union, ça valait rien. Donc, on est dans une démarche où on essaye de régler la question Serbie-Kosovo et le président Macron est allé à Belgrade plein d'emphase à souligner le courage d'Aleksandar Vučić, etc. Mais lui, il est pas idiot. D'abord, il a pas intérêt à régler la question à court terme. Et si en plus de ça, le seul levier d'influence qu'on peut avoir sur lui, c'est-à-dire la perspective européenne, on lui bloque. Faut pas espérer ensuite avoir des billes pour régler la question. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, dans le reste de la région, de toute façon, on n'est pas idiots. Les gens s'en vont, ils vont travailler ailleurs, non pas comme clandestins ou comme demandeurs d'asile, mais ils vont travailler de façon parfaitement légale en Allemagne, en Irlande, etc. Et pour le reste, oui, vous êtes l'Albanie et le Kosovo. Globalement, ça veut dire quoi espérer l'intégration européenne en 2045? Ça n'a aucun sens, donc il faut se réinventer un projet. Et pour la Bosnie, c'est pareil.
Voilà. Et tous ceux qui sont déçus, voire fâchés par ce veto français, de rappeler que la région, dans cette région, la guerre est encore très récente, les années 90. Merci beaucoup, en tout cas, Loïc Trigourès, d'avoir été avec nous ce matin. Le dossier sera à nouveau sur la table à Zagreb, en Croatie, lors du prochain sommet entre l'Union européenne et les Balkans au printemps. Bonne journée, Loïc Trigourès.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
C'est l'un des cinéastes les plus récompensés au Festival de Cannes, à l'occasion de la sortie de Sorry We Miss You, où il ne lâche rien de sa colère et de son combat humaniste, Ken Loach, l'insurgé, à voix nue sur France Culture. Retour sur une vie de combat et de création.
J'ai passé un examen pour aller à Oxford. C'était inouï dans notre famille. C'était une ville très classe ouvrière.
Rencontre exceptionnelle avec Ken Loach, à voix nue, de lundi à vendredi à 20h et en intégralité sur franceculture.fr. Que se passe-t-il lorsqu'un philosophe s'approche d'une toile de Léonard de Vinci? Les chemins de la philosophie tentent de saisir l'insaisissable Léonard. Adèle Manrette.
Ben nous, on va essayer de voir les œuvres de Léonard de Vinci à travers le regard des philosophes. Ce sera donc de 10h à 11h.
La Joconde, la Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste ou la Vierge au Rocher, cheminons aux côtés de Léonard de Vinci, les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture si vous venez de vous réveiller. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
6h55, votre humeur du jour Guillaume, l'ubérisation peut tuer.
Oui, alors plus exactement, on peut tout ubériser, y compris les tueurs à gages. C'est une histoire incroyable racontée par la BBC, alors une histoire qui débute gentiment, hein, Julie. Un homme d'affaires dénommé Tan Wiwi a embauché un tueur à gages pour se débarrasser d'un concurrent un peu gênant et il a décidé de donner au tueur à gages, Monsieur Wei, $280,000. Bon, jusqu'ici,
normal,
tout va bien.
Normal.
Mais voilà, le tueur à gages décide d'ubériser ce travail, autrement dit de le sous-traiter, et donc il prend sa marge, et il offre $141,000 à un autre Gugus pour faire le travail. Alors là, bon, c'est déjà un peu plus compliqué, mais là où l'affaire se complique, explique la BBC, c'est que le tueur à gages N-1 a décidé d'embaucher un tueur à gages N-2, lequel en veut un N-3, lequel s'est dit « je vais quand même pas me fatiguer à tuer un type », donc il a trouvé un N-4 tout aussi cupide que le N-3, qui a par conséquent sous-traité encore une fois ce travail. En tout, 5 tueurs à gages se sont repassés la patate chaude, enfin la mission. Mais voilà, le dernier tueur à gages, Julie, qui devait être payé 3 ronds, enfin 15 000 dollars, hein, 20 fois moins que le prix initial, a salopé le travail, pardonnez-moi l'expression, puisqu'il a contacté le macabé potentiel en lui expliquant qu'il était en substance chargé de le tuer. Et que par convenance personnelle, il lui serait reconnaissant de faire le mort, autrement dit de simuler son assassinat, parce que bon, il avait différents débours, Netflix à régler, la machine à laver, bref, voilà. Et là, la victime présumée, Monsieur Wei, a accepté de faire une photo. L'histoire ne dit pas s'il s'agissait d'un selfie avec son meurtrier, bâillonné et ligoté pour que l'ultime tueur à gages touche son dû avant finalement, quand même, il s'est ravisé d'aller tout balancer à la police. Comme quoi, on peut faire confiance à personne, pas même aux morts. Du coup, procès, un procès assez long. Et vous savez quoi? Eh ben, la justice chinoise, elle aussi, a ubérisé les peines. Alors, elle les a pas sous-traitées, mais elle a appliqué une décote. Le commanditaire a été condamné à 5 ans de prison. Le premier tueur, 3 ans et demi, jusqu'à l'ultime tueur à gages qui, lui, a écopé de 2 ans et 7 mois. Parce qu'en Chine, on est précis, Julie, sur les peines. La morale de l'histoire, c'est que l'ubérisation peut tuer tous les métiers, y compris celle de tueur à gages.